Je voudrais commencer ce culte, enfin cette prédication, en remerciant Sophie parce que ce beau moment de cœur à cœur, hein, et puis aussi Samuel, Nels et puis Michael. Moi, je sais pas, je suis rentré dedans et ça fait du bien, quoi. Voilà. Donc, ce matin, vous avez déjà vu le titre. Je leur dirai. Et j'ai prévu aussi de faire un petit jeu avec les personnes qui ont plus de... Non, qui savent déjà lire et écrire et qui ont en dessous de 18 ans. Il y a quelques questions sur le message de ce matin. Ceux qui savent bien répondre, eh bien, ils iront voir Wardia. Et puis, Wardia, elle pourvoira en bonbon. Hein. Mais il faut aussi que les parents soient d'accord parce que, hein, qu'il n'y ait pas d'étranglement ou qu'il n'y ait pas de problèmes digestifs. Donc bonjour à tous, à vous amis juliettistes, frères et sœurs. Quand je dis juliettistes, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore en vacances et vous faites peut-être, vous attendez avec impatience que les vacances d'août arrivent. Bonjour surtout à vous tous et toutes qui êtes présents ce matin pour une rencontre spirituelle avec notre Dieu. Bonjour à vous toutes et tous qui lisez sa parole afin de trouver sa volonté et chercher aussi à lui plaire. Toutes et tous, soyez abondamment bénis. Voilà. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer un thème donc important qui peut nous faire toutes et tous progresser dans nos vies chrétiennes. C'est un thème qui vient éclairer nos zones d'ombre et qui peut-être bloquer encore notre relation avec Dieu. Ce thème, c'est lire la Bible en passant de la théorie à la pratique. Alors, vous savez que la lecture de la Bible peut faire de nous de brillants théoriciens spirituels. Or, par exemple, on peut connaître parfaitement Dieu à travers la Bible, hein, c'est la connaissance. Nous sommes imbattables sur l'histoire d'Israël, nous connaissons par cœur des versets bibliques, nous avons tout compris de la grâce, nous connaissons toutes les théories sur la fin des temps, c'est merveilleux, nous sommes d'extraordinaires théoriciens de la Bible, mais qu'en est-il de notre pratique ? Alors c'est un petit peu le thème quand même de ce matin. Hein. Jésus le dit clairement et sans détour, la théorie, la connaissance, c'est très bien, c'est indispensable, mais pas sans la pratique. Et ce verset de Jean 13, 17 le dit explicitement, « Si vous savez toutes ces choses, eh bien vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. » Voilà, mettons-les en pratique. « Oui, je suis heureux si je connais par cœur dix versets de la Bible, mais je suis 10 fois plus heureux si je les mets en pratique. » Alors, si Jésus nous fait une telle demande, c'est tout simplement parce qu'il a ouvert lui-même le chemin de la mise en pratique. Il a réalisé ce que Dieu le Père a demandé. Vous savez qu'au commandement de Jean 15, 2, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Non, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, comment Jésus a-t-il répondu à ce commandement ? Eh bien, Jésus a répondu par Golgotha et la mort sur la croix. Oui, Golgotha, le mont de la crucifixion, marque le point d'orgue, le point culminant de la mise en pratique de l'amour de Jésus pour les hommes, c'est-à-dire pour vous et moi. Dans Romains 5, versets 6 et 8, on peut lire ceci. « En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, eh bien le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, eh bien le Christ est mort pour nous. » Vous voyez que là, l'amour théorique du commandement, eh bien, devient un amour vrai, un amour authentique par l'accomplissement du commandement à la croix. C'est comme ça qu'on passe de la théorie à la pratique. Alors c'est vrai, vous me direz peut-être, rien de compliqué. C'est pas compliqué. Il suffit de pratiquer ce qu'on lit. C'est simple, hein, la vie chrétienne. On lit et on pratique. Oui, mais c'est loin d'être évident. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je me souviens qu'étant jeune chrétien, j'avais aucune difficulté parce que je trouvais que c'était bien quand on était chrétien de dire « Oui, moi je suis fier de l'Évangile, je suis fier de la Bible. » Et je reprenais le passage de Romains 1, « Je suis fier de l'Évangile. » Alors un jour, il y a l'évangéliste Jean Comariano, je ne sais pas si certains le connaissent, il est venu à Vendeuvre, et puis il est venu chez moi, il est venu habiter chez moi. Et nous avons sympathisé. Et avant de retourner donc chez lui, de prendre le train, comme je lui avais dit que je travaillais à Flavigny avec des jeunes handicapés, eh bien il m'a dit « J'aimerais visiter l'endroit où tu travailles ». J'étais content, moi. Je lui ai dit « Il est venu » et à midi, je l'ai invité à manger à la cantine. Je lui ai dit « Jean, tu ne vas pas rentrer comme ça, tu viens manger à la cantine ». Mais alors, nous étions à table, quand soudain il s'est levé et a demandé « Est-ce que cela gêne quelqu'un si je rends grâce pour le repas ?» Là, il y avait des profs marxistes, il y avait des athées, il y avait des gens que je ne connaissais pas. Je ne vous dis pas comment j'étais. Il a rendu grâce comme on le fait dans l'Église. J'ai failli dire, comme Jésus, je ne connais pas cet homme. Mais comme c'était moi qui l'avais amené, je ne pouvais pas dire ça. J'ai failli m'évanouir, j'ai failli tomber dans les pommes. Honnêtement, j'ai eu honte. C'est vrai, j'ai pratiqué sa foi devant ses collègues, a été pour moi très difficile. C'était une épreuve, c'était la peur de ma vie, quoi. Après, il y avait tous les regards qui se fixaient sur moi. J'étais mal, franchement, j'étais mal. Alors, pour mettre en pratique les paroles de la Bible, il faut déjà la lire et la connaître. C'est la moindre des choses. Il paraît évident qu'on ne peut pas pratiquer ce qu'on ne connaît pas. Dire « il faut lire la Bible chaque jour » n'a jamais motivé personne. Est-ce que ça vous motive quand je vous dis « allez, il faut lire la Bible tous les jours » C'est même contre-productif, car ça fait de nous des légalistes, des personnes qui suivent des lois. Vous savez, je suis allé voir ma cardiologue il n'y a pas longtemps, et quand elle m'a dit « Monsieur Courtin, il faut que vous preniez de l'aspirine Protect tous les jours de votre vie », ça m'a pas enthousiasmé. Hein. J'ai pas sauté au plafond en disant « Ouais, je vais le faire, c'est là ». Ce qui m'a motivé à prendre l'aspirine, c'est qu'elle m'a dit « ça peut vous éviter de faire des AVC ». Alors ça m'a motivé. Mais prendre des médicaments, un de plus, ça ne m'a pas motivé du tout. Alors quand on comprend le pourquoi des choses, cela motive davantage que les « il faut, tu dois ». Frères, sœurs, lire la Bible, ce n'est ni une obligation, ni un devoir, encore moins une option. C'est comme la carte, c'est vital. Pour un chrétien. Tout d'abord, et c'est important de le dire, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Moi, quand j'étais jeune garçon, mon livre préféré, c'était le roman de Robinson Crusoe. Vous savez, le naufragé vivant de grandes aventures sur une île déserte, ça me faisait rêver. La Bible, elle ne fait pas rêver. Moi, elle ne m'a jamais fait rêver. Elle parle de chacun de nous, de notre présent, de notre passé, de notre avenir. C'est un livre inspiré. Alors, rassurez-vous, hein, je prendrai le temps d'expliquer les mots difficiles comme « inspiré »,« discernement », etc., afin que vous compreniez parfaitement le langage de cette prédication. Alors, frères et sœurs, pour moi, il y a deux façons de lire la Bible. Alors j'espère que pour vous, ce sera pareil. Premièrement, d'une façon littérale, c'est-à-dire on se place à l'extérieur de la Bible. Je peux lire la Bible en pensant qu'il s'agit d'un livre d'histoire qui concerne exclusivement la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, qui raconte la venue de Jésus, la naissance de l'Église et toutes les lettres de Paul aux différentes églises. Si je lis la Bible de cette façon, selon ce principe, je ne me sens absolument pas concerné par ce que dit la parole. Et surtout pas dans ma vie quotidienne. là parce que je me situe à l'extérieur. Mais j'ai une autre façon de lire la Bible, c'est je me place à l'intérieur. Je peux lire la Bible en pensant que lorsque Dieu parle au peuple d'Israël, au personnage biblique, eh bien il me parle également à moi. Cela paraît impossible qu'il puisse me parler à moi. Franchement, c'est pas possible. Mais vous le savez, dans Luc 1,37, il est écrit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et peut-être que ce matin, vous en doutez. Vous dites peut-être, c'est pas... Il nous raconte des blagues, le Daniel. Non, franchement, il parle en même temps au peuple d'Israël et puis il va vous parler à vous. Ben, c'est possible parce que la Bible est un livre inspiré et que Wardia, mon épouse et moi, nous l'avons expérimenté. Jeune chrétien, ben, je l'ai déjà raconté, mais je le raconte encore, Dieu m'avait demandé de me séparer de la jeune femme avec laquelle je vivais en concubinage. Il voulait simplement me purifier. Toute une nuit, j'ai clairement entendu dans mon sommeil ces trois mots, séparation, purification, union. Toute la nuit, j'ai entendu ça. Et cette période de purification a été bénie pour moi, ça a été une bénédiction. Et je lisais la Bible chaque jour, trois chapitres. Vous vous rendez compte, j'allais travailler, hein, mais je lisais trois chapitres de la Bible. Mais je passais aussi par de très grands moments de tristesse, car j'attendais la promesse de Dieu qui tardait. C'est vrai, ça faisait déjà au moins 2 ans et demi que j'attendais, je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop long. Un jour, j'ai crié à Dieu, j'en pouvais plus. Hein. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un encouragement pour que je continue à te faire confiance. Le lendemain, alors que je lisais le chapitre 31 de Jérémie, il s'est passé une chose extraordinaire. C'était comme si Dieu taillait à coups de burin dans la pierre un texte pour moi et qui répondait à toutes mes questions. Alors je vous rappelle à tout hasard que ce texte a été écrit en 600 avant Jésus-Christ et s'adressait au peuple de Juda. Donc pas à Daniel Courtin, pas à moi. En 16 versets bénis, Dieu m'a parlé et a fait couler toutes les larmes de mon corps. Peut-être qu'en le lisant ce matin, je vais peut-être encore pleurer, hein, parce que 35 ans après, ça me fait encore de l'effet. J'avais rencontré Dieu à travers une difficile épreuve, et Dieu s'en souvenait. Au verset 2, il me dit « Ainsi parle l'Éternel, tu as trouvé grâce dans le désert. » À présent, Dieu me déclarait son amour de Père, au verset 3. « De loin, l'Éternel se montre à moi. » Et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. J'avais vraiment vécu des temps de tristesse. Il m'apportait sa consolation. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. J'avais passé 2 années et demie de purification et d'attente. Dieu m'encourageait. Ainsi parle l'Éternel, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Verset 17. Dieu m'a rappelé qu'il avait pardonné tous les péchés de ma jeunesse, et j'en avais, c'est pour ça qu'il m'a purifié. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse, je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Seigneur, je te demande pardon. À présent, il me parle de celle qui va devenir mon épouse. Verset 22. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Et contre toute attente, eh bien, 6 mois plus tard, c'est Wardia qui est venu vers moi. Alors que je ne m'y attendais pas. Il m'a parlé de mon avenir. Voici les jours viennent où j'ensemencerai leur maison, dit l'Éternel. Au verset 28, et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Au verset 33, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Au verset 34, je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Et puis Dieu concluait en me disant, au verset 38, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville, c'est-à-dire nous deux, sera rebâti en l'honneur de l'Éternel, ils seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Si ce n'est pas quelque chose qui m'a remonté le moral. Voilà, frères et sœurs, quand Dieu vous parle par sa parole, c'est comme une révélation qui s'impose à vos yeux et touche profondément votre cœur. Wardia, qui a lu plusieurs fois Jérémie 31, elle a lu plusieurs fois. Elle m'a avoué, je ne l'ai pas lu comme toi, et Dieu ne m'a pas parlé comme il t'a parlé à toi. Elle n'a rien vu de spécial dans Jérémie 31. Par contre, Siwardia, qui est mon épouse chérie, elle a une histoire différente de la mienne. Et Dieu a utilisé d'autres versets pour lui parler qui n'ont pas parlé à moi. Wardia, qui était en rupture familiale, a reçu cette belle parole en Luc 8, 39. « Rentre chez les tiens et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Wardia est retournée après 10 ans de rupture dans sa famille. Elle a été portée par la main bienveillante de Dieu. Et elle a témoigné à sa famille, son papa s'est converti, et 4 de ses sœurs et 1 de ses frères sont en Christ. « Merci Seigneur !» Et on espère que tout le reste de la famille va se convertir, parce qu'on prie pour eux. Mais ce n'est pas tout. En lisant 1 Chronique 28, verset 10, c'est l'Ancien Testament, Wardia a reçu une parole qu'elle n'a pas comprise sur l'instant. « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour lui construire un édifice qui serve de sanctuaire. Prends courage et au travail. » Devant un tel message, on ne comprend pas. Eh bien, notre famille s'était agrandie, et la maison devenant trop petite, eh bien, j'avais projeté de faire bâtir un étage au-dessus de notre maison. Mais Wardia, inspiré par l'esprit, a trouvé un terrain constructible à 500 mètres de notre domicile. Et nous avons pu construire une maison où se passent les réunions pastorales de l'Église, qui est le lieu d'études bibliques et des réunions en chemin. C'est vraiment une annexe de l'Église. Vraiment, la promesse de Dieu s'est accomplie. Donc, de la théorie, on est passé à la pratique. Vous voyez ? Frères, sœurs, Dieu parle aujourd'hui à travers la Bible. Et il me parle chaque jour. Vous savez, j'ai amené ma Bible. Je ne l'amène pas souvent. Bon, quand je l'ai pris, c'est ma 4e Bible. Quand je l'ai pris, elle était toute neuve. Bon, alors, c'est vrai qu'elle est surlignée de partout. Parce que Dieu, il parle tous les jours. Je prends un stylo fluo et je souligne tous les passages où Dieu me parle. Et vous pouvez faire la même chose. Alors, si cela vous étonne, vous surprend, eh bien Dieu parle par la Bible, qui, je le rappelle, est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est identifiée à Jésus, en fait. Apocalypse 19, verset 13. Il est revêtu d'un habit, d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Si cela vous étonne, écoutez plutôt ce que dit le passage d'Hébreu, versets 1 et 2. Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres, par les prophètes. Mais maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, vous savez qu'on vit les derniers jours, depuis la venue de Jésus-Christ. C'est par son Fils qu'il nous a parlé. Donc c'est par la parole qu'il nous parle. Jésus nous parle par la parole. Il parle à chacun de nous dans nos cœurs et il parle par la parole. Nous l'avons dit, c'est parce que la parole de Dieu est inspirée qu'elle parle à celles et ceux qui la lisent. Lorsqu'on parle d'inspiration, cela signifie qu'il y a un inspirateur qui a voulu, désiré, et fait habiter dans la parole de Dieu son souffle. En grec, c'est théopneustos. Cet inspirateur, c'est Christ, qui, par le souffle du Saint-Esprit, a dirigé chaque mot, a dirigé chaque phrase, chaque parole, selon la volonté puissante et profonde de Dieu. Il l'a rempli de sa divine pensée, et c'est pourquoi l'apôtre Paul a pu écrire dans 2 Timothée 3,16 « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Toute l'Écriture, et non une partie de l'Écriture. Et c'est ce que je mettais dans le petit passage de ce matin. Les personnes qui lisent que quelques passages de la Bible se privent de toute l'inspiration que Dieu met dans la parole. Hein ? Vous savez que ma Bible, elle est surlignée même dans les chroniques, même dans les nombres. Mais c'est incroyable. C'est par des hommes choisis par Dieu, poussés et remplis par la toute-puissance du Saint-Esprit qu'a été rédigée la Bible. 2 Pierre 1,21. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Là, le rôle puissant du Saint-Esprit dans la parole, habité par la pensée profonde et la puissante volonté de Dieu, eh bien, sa parole fait autorité sur nos vies. Elle nous guide et nous dirige. Dieu y glisse des révélations. Il y a plein de révélations dans la Bible. Et ces révélations vont éclairer nos yeux et nos vies. Regardez les deux passages du psaume 119. Psaume 119, verset 130. « La révélation de tes paroles est claire. » Et surtout dans notre monde de fausses informations et surtout de mensonges, de fake news, elle est une source de vérité et un havre de paix. Psaume 119, 160. La vérité, telle est le fondement de ta parole. Hein, si vous cherchez la vérité, n'allez pas sur LCI, n'allez pas sur CNews, allez chercher dans la Bible. Vous l'avez toutes et tous compris, j'espère, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle n'est pas morte. Elle agit puissamment dans la vie de celles et ceux qui la lisent et veulent la mettre en pratique. Hébreux 4,12, que vous connaissez presque par cœur, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, et juge ainsi les dispositions et les pensées du cœur. Quand on lit la Bible, c'est comme s'il y avait une épée qui venait nous transpercer à l'intérieur et qui nous fait du bien. La parole de Dieu est vivante, elle n'est donc pas sans conséquence pour nous chrétiens qui y plongeons nos regards et voulons la pratiquer. Faites attention, c'est dangereux la parole, parce que ça peut vous transformer, ça peut vous changer, ça peut faire des choses extraordinaires en vous. Non, la Bible n'est pas, comme certains le croient, seulement un recueil de paroles divines sans effet, un moyen de communiquer des pensées. Oui, elle est vivante et efficace. Elle agit en nous et transforme nos vies. Plus pénétrante qu'une double lame tranchante, elle révèle qui nous sommes vraiment et surtout ce que nous ne sommes pas. Elle pénètre au cœur de nos vies, morales et spirituelles. Elle détecte et distingue en nous ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qu'il faut changer et abandonner et ce à quoi il faut renoncer. Les exigences de la parole de Dieu nécessitent donc, nous le verrons, de prendre des décisions afin que nos vies changent. Je ne sais pas ce que vous écoutez comme radio, vous. Moi, j'écoute M Radio, la chanson française. Bon. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est leur slogan. Aujourd'hui sera une belle journée quand nous l'avons décidé. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que si on a décidé que ce soit une moche journée, elle sera moche. Et si on a décidé que ce sera une belle journée, elle sera belle. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Frères et sœurs, avez-vous pris ou voulez-vous prendre ce matin la décision de lire la parole de Dieu pour vous laisser transformer par le Saint-Esprit qui habite cette parole. Le Saint-Esprit, qui est l'élément inspirateur de la Bible et transformateur de nos vies, a besoin de notre adhésion pour agir. Si on ne veut pas, le Saint-Esprit, il ne va pas forcer. Mais si on lui demande, si on veut, il va faire des choses extraordinaires. Frères et sœurs, si je ne m'approprie pas, c'est-à-dire si je ne considère pas que ce que je lis est pour moi, me concerne, alors je ne laisse pas au Saint-Esprit la possibilité d'agir en moi, car il ne peut pas le faire contre ma volonté. Dans ce cas, ma lecture restera théorique et sans effet. Frères et sœurs, qui avez envie de grandir spirituellement, vous qui désirez changer ce qui paralyse vos vies, écoutez à présent cette merveilleuse exhortation de Jacques, le frère de Jésus. Moi, ça m'a parlé, ce passage de Jacques. Cette exhortation de Jacques est clairement imagée et nous concerne toutes et tous ce matin. Alors, ouvrons grand nos cœurs et nos oreilles. Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui ou celle qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que vous êtes heureux dans votre activité? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Alors quel est le message de Jacques pour nous ce matin? Que signifie cette exhortation? Je vais à présent vous la simplifier et vous l'expliquer. Imaginez un homme, il y a un grand pourcentage d'hommes ici, qui a rendez-vous avec sa bien-aimée, Wardia par exemple, et qui veut l'inviter au restaurant. La première chose qu'il va faire avant de se rendre au rendez-vous amoureux, c'est d'observer sa tête, son look, dans un miroir. Et que voit-il? Waouh, je suis super mal coiffé, j'ai un bouton sur la joue droite, j'ai des cernes sous les yeux, et je ne me suis pas rasé. Et comment je peux aller inviter ma bien-aimée comme ça? Le miroir a été un véritable révélateur pour cet homme, comme la Bible. Il lui a montré ce qui n'allait pas et ce qu'il devait changer pour être présentable à son rendez-vous. Alors Jacques donne deux possibilités à cet homme. La première possibilité, alors cet homme, il s'en fout complètement, il ne tient aucun compte de ce que le miroir lui a révélé. Il ne se coiffe pas, il ne traite ni ses cernes ni son bouton, il ne se rase pas. Que pensez-vous de son comportement? Est-ce qu'il sera bien accueilli par sa bien-aimée? Bordel, tu m'aurais bien accueilli si c'était comme ça? Bien sûr, cet homme est un homme négligé. Mais il y a une deuxième possibilité. Cet homme tient compte de ce que le miroir lui a révélé. Il va chez le coiffeur, il traite son bouton et ses cernes, il se rase. C'est un homme soigné, respectueux de sa bien-aimée. Il sera bien accueilli par elle. Vous voyez là? Comment, quand on lit la Bible, on peut être vraiment mal accueilli par Dieu ou bien accueilli par Dieu? Hein? Quel enseignement spirituel concernant nos vies faut-il tirer de cette belle exhortation de Jacques? Eh bien, la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit est le miroir de nos vies. Elle nous renvoie la vraie image de qui nous sommes. Vous connaissez tous François Longeron? Hein, qui était l'ex-pasteur de cette église, et puis de l'église de Villers. Eh bien, il m'a raconté que, alors qu'il faisait une étude biblique chez lui, un des participants est venu le voir à la fin de l'étude pour lui dire « Pourquoi avez-vous parlé de moi? Et d'ailleurs, comment connaissez-vous toute ma vie ?» Vous ne connaissez pas. C'est la parole qui parle. C'est la parole qui parle. Mais des fois, on la fait taire, la parole, parce qu'on ne l'ouvre pas. Frères, sœurs, Dieu nous connaît bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. David, dans le psaume 139, qui est un psaume extraordinaire, écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense, tout. Dieu connaît tout de nous, mieux que moi. Dieu, à travers sa parole, nous révèle qui nous sommes. Il dit que nous sommes des pécheurs. Il nous révèle nos blessures, nos impuretés, nos manquements, tout ce qui fait obstacle à une bonne relation avec lui. » Il nous dit ce qui ne va pas dans nos vies. Il le dit. Frères, sœurs, ce que Dieu nous révèle sur nous-mêmes, dans sa parole, nous devons l'entendre, nous devons ouvrir grand nos oreilles. Si nous lisons, par exemple, la Bible de manière superficielle, ça vous arrive des fois ? Moi, ça m'arrive. Je reconnais, je le dis. Je dis, oh ouais, j'ai lu un super truc ce matin, où Ardiel me dit, t'as lu quoi ? Je m'en souviens plus. Bon, mais si je m'en souviens plus, c'est que je l'ai lu de manière superficielle. Une fois, j'ai fait ça, franchement, à Flavigny, c'était Annie, je me rappelle, j'ai entendu un super message, elle me dit, ça parlait de quoi ? Je m'en souvenais plus du tout, plus du tout. Vous voyez, des fois, on dit, ben oui, c'est un super message, mais on s'en souvient plus. Voilà, si on lit la Bible de manière superficielle, eh bien, nous pouvons, dit Jacques, être trompés par de faux raisonnements. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi je surligne les passages qui me parlent. Je les analyse dans la prière et je discerne ce que Dieu veut nous dire. Vous savez, discerner, c'est la capacité de distinguer la parole, la pensée de Dieu. Moi je me souviens que, je vous donne un exemple. Je lis dans la parole « Donne à celui qui te demande ». Il y a deux jeunes qui passent dans mon immeuble quand j'étais jeune chrétien et qui disent « Monsieur, vous n'auriez pas les clés de votre garage ?» Enfin, de la cave. Je dis « Non. » Et puis après je dis « La parole, elle parle. Donne à celui qui demande. » Je cours après eux, je leur donne les clés. Tous les garages ont été cambriolés. Bon. Mais il faut avoir du discernement. Vous voyez, par exemple, si... Bon, moi, j'ai rien dit. J'étais dégonflé, franchement, parce que j'ai pas dit c'est moi qui ai donné les clés. Mais si, par exemple, quelqu'un vous dit donne-moi ta maison, donne-moi ta voiture, donne-moi ta femme, donne-moi tes enfants, on va pas dire oui, c'est marqué dans la parole. Donc, il faut qu'on apprenne aussi à discerner les choses. Hein. C'est pas parce que la. Alors, c'est pour ça, là, j'ai marqué un passage, j'ai dit. Voilà, la parole, ça peut tuer si on prend vraiment à la lettre la parole. Il faut se laisser diriger par l'esprit. Alors la parole est notre miroir, mais bien plus, c'est un miroir réfléchissant qui propose aussi le moyen de changer, de transformer ce que nous sommes. Et j'aime beaucoup ce passage, et méditez-le aussi, le passage du prophète Ésaïe, au chapitre 55, versets 10 et 11. Il décrit la puissance transformatrice de la parole. Il dit « La pluie et la neige qui descendent du ciel ». Pensez bien à cette image. « La pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé ». C'est normal, c'est la pluie et la neige. Et féconder la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à ceux qui le mangent. Heureusement qu'il y a la pluie et la neige qui font ça. Vous comprenez toutes et tous cette belle image champêtre qui a bien sûr une portée spirituelle. Au verset 11, « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. » Sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La parole nous révèle que nous sommes des pécheurs et que nous devons passer par la grâce, croire en Jésus-Christ. Si nous manquons de sagesse, de discernement, demandons-les à Dieu. Nous vivons des blessures spirituelles, nous avons tous et toutes des blessures spirituelles. Demandons la guérison et aussi faisons-nous aider. Nous sommes remplis d'impureté, eh bien le Saint-Esprit peut nous en libérer. Vous le voyez, frères et sœurs, passer de la théorie à la pratique, dit Jacques, c'est rester fidèlement attaché à la parole de Dieu. Tous les grands hommes de Dieu étaient des lecteurs assidus des Écritures, sans exception. Josué 1, verset 8 dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. » Vous allez peut-être vous dire, c'est pénible de lire, j'ai déjà lu la Bible une fois, j'ai redit deux fois, trois fois, c'est toujours les mêmes choses. Non, c'est jamais les mêmes choses, jamais. Moi, avec Wardy, on l'a peut-être lu combien, une trentaine de fois, c'est jamais les mêmes choses. Frères et sœurs, le même esprit qui inspire les Écritures vient rejoindre le Saint-Esprit qui nous habite. Parce que n'oubliez pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Pour travailler en duo, le Saint-Esprit est nous afin d'accomplir les changements, les transformations spirituelles voulues par Dieu. Frères et sœurs, celles et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, que l'on reçoit en croyant en Jésus-Christ et en le recevant dans son cœur par la foi, ne peuvent ni comprendre la parole, ni la pratiquer, et donc être transformés. Moi, j'ai essayé, avant d'avoir cru en Jésus-Christ, cru qu'il était mort pour mes péchés, j'ai essayé de lire la Bible, je n'y comprenais rien, mais rien du tout, rien. 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16, « L'homme réduit à ses seules forces ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. » C'est normal puisqu'il n'a pas l'Esprit. Comment il va recevoir ce que lui envoie l'Esprit ? À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Donc si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Un bon moyen pour la comprendre, c'est de faire rentrer en vous le Saint-Esprit en croyant que Jésus est mort pour vous sur la croix pour vos péchés. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit entre en vous. Celui ou celle qui a l'Esprit peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous, c'est-à-dire vous tous, mais nous avons la pensée du Christ. Mais nous avons la pensée du Christ. C'est incroyable. Frères, sœurs, si nous avons la pensée du Christ, eh bien prenons ce matin la décision de travailler en duo avec le Saint-Esprit pour passer de la théorie biblique à la pratique chrétienne. Merci pour votre écoute attentive. Et si vous avez des questions à poser sur la prédication ou des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte. Et il y aura aussi des bonbons pour ceux qui viendront. Je promets.